Les Doubles Radio présentent Sortie de scène, l'actualité culturelle par ceux qui la font juste à leur sortie de scène. Sortie de scène spéciale Coup de foudre. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Baptiste Arnal. Bonjour.
Bonjour.
C'est un musical construit à partir de plus de 80 chansons de répertoire de musique française. Tu peux nous résumer le début de l'histoire de Coup de foudre?
Coup de foudre, c'est un spectacle qui s'est monté pour la toute première fois en 2003, dans une version amateur en fait. Il y avait 25 personnes sur scène, un chœur de 15 personnes. C'était un spectacle sur le même principe, c'est-à-dire des reprises qui racontent une histoire, mais l'histoire n'était pas la même. C'était l'histoire de trois couples qui se rencontraient, se séparaient, se retrouvaient. Il y avait déjà un couple en rouge et les autres couples en pastel et noir et blanc. Mais l'histoire n'était pas du tout la même. Et en fait, dès la deuxième année, j'ai créé le personnage d'Eris, donc qui est la déesse de la discorde et qui sème la zizanie entre ces couples. Et au fil des années, en fait, l'histoire a pris forme. Et maintenant, on est dans un spectacle qui relate les péripéties d'Eris, qui n'aime pas l'amour, qui a sûrement souffert en amour et qui maintenant veut faire comprendre à tout le monde que la seule chose qui peut résulter de l'amour, c'est la souffrance. Et donc, pendant une heure et demie, elle s'attelle à faire souffrir ses couples qui, au final, vont quand même rencontrer l'amour et être heureux en amour. Et même elle pourrait trouver l'amour auprès de la personne la plus inattendue du spectacle, d'ailleurs.
Avant de retrouver une équipe d'acteurs, chanteurs, danseurs, comment on travaille en fait? Est-ce que tu as écrit avec quelqu'un? Comment se déroule la phase avant les répétitions?
Alors, on est parti en fait du premier scénario qui avait été écrit par Gabriel Laurence et Catherine Robert, qui ont travaillé en bibliothèque en fait, en partant du thème de l'amour et en se disant, on a un couple A où on va avoir une bimbo qui essaie de séduire un garçon timide, donc ça crée un premier couple. Couple A d'ailleurs, ils les avaient appelés Aglaé et Alceste. Un couple B, Bernard et Bianca en rouge, qui était le couple éternel, qui est ensemble depuis on ne sait pas combien de temps, mais la nuit des temps, et qui va se séparer au cours de ce spectacle et essayer de se retrouver. Et un couple C, qui était à l'époque Casimir et Clarabelle, qui était le séducteur qui tente de dévergonder une petite jeune fille qui n'a pas connu l'amour. Et à partir de ce scénario-là, en fait, j'ai apporté mes envies, mes délires, peut-être aussi ma vision de l'amour, en recherchant ce qui allait créer des accidents dans l'histoire, des rebondissements. Et ces rebondissements faisaient qu'on avait besoin de telle ou telle chanson. Donc là, il les quitte. En parallèle, le séducteur et la séductrice quittent le jeune premier et la jeune première. Donc les chansons de rupture, alors on épluche les chansons de rupture et on essaie de trouver celle qui va être la plus surprenante. D'ailleurs, pas forcément que des chansons de rupture, mais aussi des chansons qui, au départ, racontent autre chose, mais si on les met dans ce contexte, vont prendre un sens différent. Par exemple, à un moment, on a Narcisse, le séducteur, donc la nouvelle version de Casimir, pour ceux qui ont suivi, qui se retrouve seul, et Narcisse, évidemment, se parle à lui-même dans son miroir, et on voulait une chanson où il se déclare à lui-même que finalement il n'aime que lui. Et donc Lettre à France de Michel Polnareff, Depuis que je suis loin de toi, je me sens comme loin de moi. Donc voilà, c'est en ça que tout d'un coup on décale des chansons qui étaient très marquées au niveau du sens, au niveau du contexte.
D'accord, mais alors c'est un peu comme un puzzle, il faut chercher la bonne chanson. Et par exemple, à un moment donné du spectacle, il y a une sorte de medley par un des acteurs, donc François, qui en fait a quelques minutes, va chanter une vingtaine de chansons, d'extraits de chansons différents. Ça aussi, c'est tout est écrit, ou il y avait une part d'improvisation de la part des acteurs à un moment donné de la préparation du spectacle?
Non, alors tout est vraiment écrit en fait avant le début des répétitions avec les comédiens. Par exemple, le medley, c'est vraiment une commande entre guillemets que j'ai faite auprès de Raphaël Calandro, qui est le directeur musical, donc pour le personnage de Jason interprété par François Beaurand. Et la demande, c'était: tout d'un coup, ce personnage va être envoûté par la déesse de la discorde, et il faut qu'il soit le plus salaud possible avec sa femme en récitant la liste de ses conquêtes et de ses amours passés, présents ou futurs. Et donc, on s'est dit, puisqu'il parle de toutes ces conquêtes-là, prénom féminin. Et donc, on a épluché toutes les chansons à prénom féminin. Donc, Daniela, on a quoi dans le medley? On a Daniela, Jeanne et Serge, pourquoi pas, Suzette. Enfin, quand je pense à Fernande, voilà, on est allé chercher vraiment dans tous les styles, tous les univers musicaux. Et à partir de là, en fait, on a recomposé au niveau, en fait, vraiment parallèle avec Raphaël Calandro, à la fois pour l'écriture musicale, les nécessités des changements de rythme pour que ce soit surprenant musicalement, et ce que je pouvais apporter au niveau dramaturgique, c'est-à-dire si on amène trois chansons décalées les unes après les autres, ça va casser l'effet que ça pourrait avoir, alors que si on intègre entre ces trois chansons qui sont vraiment décalées, comme Jeanne et Serge, Il venait d'avoir 18 ans, ou des chansons un peu plus attendues, l'effet va fonctionner.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les musiques, ça va de Boris Vian à Joe Starr, de Laurie à Gainsbourg, de Dutronc à Dalida. Est-ce que au départ, vous étiez fixé des limites à ne pas franchir? C'était forcément des chansons françaises, en français. Et est-ce qu'il y avait des auteurs interdits, entre guillemets, ou...
Alors, on s'est pas fixé de limite de genre, pas fixé de limite d'époque, ni même de langue en fait, parce qu'il y a certaines chansons qui sont pas en français, ou des extraits qui sont en anglais ou japonais. La seule contrainte, c'était la compréhension, c'est-à-dire que pour le public, il faut que ce soit, que ça fasse sens, soit dans la référence musicale, soit dans la référence visuelle, soit que ce qui est raconté par la chanson au premier degré soit totalement compréhensible, et même si c'est une chanson peu connu qu'il découvre, ça va servir le propos. Par exemple, il y a une chanson de Juliette, Mutatis Mutandis, qui est relativement connue, mais pas connue du public le plus large, et où Circé, le personnage qui s'appelle Circé, la séductrice, raconte qu'elle est magicienne et qu'elle s'appelle Circé, et là, au premier degré, on a une chanson qui raconte ça. Et après, la seule contrainte qu'on s'est imposée, c'était de ne pas prendre des chansons extraites déjà de musicales, de théâtre musical, comédie musicale, etc. Donc, à certaines époques de Coup de Foudre, il y avait du Kurt Weill, extrait de l'opéra de Katsu, de Starmania, et ça, on s'est dit non, c'est trop facile, c'est déjà des chansons qui sont des scènes de théâtre en soi, donc c'est le seul interdit.
Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un peu le partage de travail, c'est-à-dire qu'il y a, toi tu es à l'écriture, à la mise en scène, il y a donc Raphaël qui est à la direction musicale, et il y a une chorégraphe.
Oui, en fait, je suis arrivé avec mon scénario et donc succession de chansons qui existent déjà auprès de Raphaël. On a travaillé pendant quelques séances sur le sens qu'on voulait apporter aux chansons et le sens que devaient prendre les tableaux. Et lui, en fait, a vraiment travaillé pour que, par exemple, les 7-8 chansons qui vont former un tableau et le dialogue entre deux personnages se transforment en une seule chanson, un seul tableau et prennent une cohérence musicale. Alors la cohérence musicale, ça peut être aussi par des ruptures de rythme à l'intérieur du tableau et tout d'un coup un passage d'un style à l'autre, mais que ce soit cohérent par rapport à la dramaturgie et au parcours des personnages. Quand on a fini de créer tout cet ensemble musical avec Raphaël, j'ai travaillé avec Catherine Arondel, qui est la chorégraphe du spectacle, en intervention sur certains tableaux justement. Parce que, comme on est dans du théâtre musical, justement, quand dans une comédie musicale, normalement, il y a le dialogue parlé, et quand l'émotion est trop forte, on se met à chanter, et quand l'émotion est encore plus forte, on se met à danser. Là, coup de foudre, on part déjà sur du chanter tout le temps. Donc, on est déjà dans un niveau d'émotion assez fort. Donc, après, il y avait la bascule sur des tableaux un peu plus physiques, pantomimes ou très visuels, et l'étape suivante était la danse, et là, c'est avec Catherine qu'on a travaillé... Donc voilà, toujours sur des ambiances, des fois en créant un décalage même par rapport au style musical des tableaux.
Alors il faut saluer aussi le travail des décorateurs et des costumes, puisque alors le décor, on est proche de Tim Burton. Le maquillage, la coiffure, les costumes, c'est aussi assez sobre, mais c'est aussi un univers de sorciers, enfin de sorcières pour Iris.
Oui, en fait, on a créé les costumes avec... Marianne Pouillès a créé les costumes. Et c'est pareil, on a travaillé pendant de longs mois en amont, en réfléchissant sur chaque personnage. Est-ce qu'il vaut mieux en col Claudine, en col droit, en col italien, etc., etc. Et sur le style, avec effectivement l'ombre de Tim Burton qui est quand même très présente sur le spectacle. Et la rencontre entre des univers kitsch, années 50... et des univers plus d'époque victorienne, mais toujours un peu rock, cuir, un peu plus décalé, et forcément les maquillages, une fois que les costumes ont été créés, aller dans ce sens-là aussi.
Les comédiens, évidemment. Comment s'est fait la distribution? Est-ce qu'il y a il y a eu plusieurs vagues entre guillemets d'acteurs différents?
En fait, on a une troupe d'une vingtaine de comédiens et une douzaine de personnes sur scène, une douzaine de rôles en fait, dont le pianiste. Et en fait, aussi comme on joue au coup de foudre depuis pas mal de temps, selon les disponibilités de l'équipe et les moments où on a remonté coup de foudre. Mais sinon, on a fait des auditions, en fait, on a rencontré des nouvelles têtes, ou fait appel à nos familles éloignées artistiques qu'on avait pu croiser au cours d'autres projets.
Toujours par rapport au choix des comédiens, est-ce que ça s'est fait assez naturellement de tel rôle, forcément, il y a plus que deux, trois personnes qui pourraient le... Est-ce que c'est toi qui as choisi en fonction aussi de peut-être du physique, tout simplement?
Oui, tous les personnages représentent vraiment un archétype de la séductrice, de l'ingénue, de la grande déesse sorcière. Là, on peut lui donner tous les noms, mais qui entre Norma Desmond de Sunset Boulevard et Merteuil dans Les Liaisons Dangereuses. Et forcément, j'ai cherché des comédiens, des comédiennes qui pouvaient coller aussi physiquement et dégager physiquement cet emploi-là, ou au contraire servir le personnage par un interprète qui n'était pas attendu dans ce rôle-là et qui tout d'un coup va donner une énergie différente et va surprendre, tout comme les chansons surprennent par leur décalage. On a plusieurs comédiens de la troupe en fait qui sont passés par deux trois rôles différents dans Coup de Foudre, mais en tout cas il n'y a pas une personne qui s'est retrouvée sur le plateau de Coup de Foudre qui n'était pas un coup de cœur, gros coup de cœur artistique et humain, parce qu'on est vraiment dans une ambiance de troupe et c'est vrai que la cohérence artistique et affective de l'équipe est importante pour moi aussi. Mais
En fait, nous sommes en direct du théâtre, du 20e théâtre. On continue.
Oui, et d'ailleurs, c'est des accords de Marlène Day que l'on entend en fond, qui est le spectacle qui joue juste avant nous et qui est un très beau spectacle qu'il faut aller voir aussi.
Alors, dans chaque musical, il y a aussi un pianiste. Donc, on a parlé tout à l'heure un peu du pianiste, parlé des comédiens. Est-ce que par rapport justement à cette troupe dont tu parles et aux liens qui existent entre vous, toi pendant ce spectacle, où tu es en fait?
Alors c'est pas le cas de tous les metteurs en scène parce que beaucoup font le choix en fait de laisser vivre le spectacle après les premières. Et en fait c'est vrai que moi je suis tous les soirs dans la salle ou en régie selon les nécessités du moment, parce qu'il y a un peu avec tout un travail au quotidien en fait de raccord, redéfinition de certains passages, etc. C'est un spectacle vraiment très vivant qui évolue pratiquement d'une semaine sur l'autre, aussi au fil de l'actualité. Tout d'un coup telle nouvelle chanson arrive sur les ondes et il paraît absurde de pas y faire référence dans le spectacle. Donc c'est vraiment un travail au plus proche de l'équipe qui est sur le plateau au quotidien.
Coup de Foudre, donc c'est né à Paris. Il y a eu plusieurs théâtres, plusieurs lieux. Là, on est au 20e théâtre, donc une salle plus grande que, par exemple, au théâtre du Marsoulan. Donc, c'est vrai que ça prend une autre dimension. Est-ce qu'on peut imaginer, pour l'année prochaine, ou dans Coup de Foudre, déjà la continuation de Coup de Foudre, et Coup de Foudre dans d'autres pays francophones?
On nous a évoqué à plusieurs reprises le fait de partir faire peut-être une tournée en Asie, parce que comme Coup de Foudre rassemble beaucoup, beaucoup de références musicales, et que au Japon, Corée, etc., ils sont très, très, très friands de la variété française ou variété internationale mais revisitée en français. Donc pourquoi pas dans les années à venir un départ pour l'Asie. Ça pourrait être amusant, mais en tout cas pour l'instant ce qu'on essaie de mettre en place c'est effectivement un retour de Coup de Foudre à partir de la rentrée ou dans la saison prochaine, en tout cas sur Paris, et dès la saison suivante une tournée en France qui commence déjà à se dessiner.
Dernière question. C'est un leitmotiv, un gimmick du spectacle. À quoi ça sert l'amour?
Ah voilà, avec la petite musique en fond, ça va être très joli. À quoi ça sert l'amour? J'ai pas vraiment répondu moi-même à cette question, et je crois que c'est pour ça que je me lasse pas de Coup de Foudre et de le mettre et le remettre en scène et réadapté, parce qu'on a eu des versions plus ou moins édulcorées du spectacle, et je crois que c'est parce que personne n'a vraiment répondu à cette question que tout le monde se reconnaît dans le spectacle. Voilà.
Merci. Moi je vous encourage à aller voir Coup de Foudre, qui est plein de dynamisme, plein d'énergie sur scène, en tout cas c'est ce qu'on ressent en tant que spectateur. Il y a une vraie fluidité ce dont on a évoqué tout à l'heure, le mix des chansons et des medleys. Voilà. Donc merci beaucoup, Jean-Baptiste.
Merci. Et on espère vous retrouver nombreux avant la dernière samedi au 20e théâtre. Merci.